Chapitre 15. Quand la Vaupallière avait dit à sa femme, le jour où celle-ci lui annonçait le mariage de l'oncle Giboudel, que ce qu'il souhaitait, c'était de ne plus la voir et de ne plus entendre parler d'elle, il était parfaitement sincère et sa parole traduisait sa pensée comme son désir. Mais s'ils étaient contentés d'un divorce moral au lieu du divorce légal qu'il aurait été heureux de faire prononcer, c'était parce qu'il espérait que la rupture de la vie commune lui assurerait le repos, en attendant qu'il pût s'adresser au tribunal pour recouvrer son entière liberté. Malheureusement, cette combinaison n'avait nullement produit les effets qu'il attendait d'elle, et si la porte de communication de la chambre de sa femme était fermée pour ne se rouvrir jamais, cela ne faisait pas que de l'autre côté de cette porte ne dormît tranquillement une femme, la sienne, tandis que lui s'exaspérait à la savoir si près. Parce que, dans la vie quotidienne, il évitait les occasions de se trouver seul avec elle, de lui adresser la parole, de la regarder lorsqu'ils se croisaient, cela ne faisait pas non plus qu'à table, il ne l'eût pas en face de lui, et que, lorsque des invités rompaient leur tête-à-tête, il ne dut lui parler, lui sourire, l'écouter, comme s'il vivait dans l'intimité du cœur et de la pensée. C'était là un supplice dont il n'avait pas imaginé l'horreur. Acceptable jusqu'à un certain point pour des époux qui, après quelques années d'une union plus ou moins heureuse, seraient arrivés à l'indifférence, cette séparation ne suffisait pas pour un mari et une femme qui, depuis qu'ils avaient été pris de vomissements, sans chercher leur cause, commençaient par s'accuser d'assassinat en se jetant au visage tout ce qu'ils avaient de mépris dans le cœur l'un pour l'autre. Était-il rien de plus atroce pour lui que cette accusation dont elle le chargeait, avec une audace qui, chez une créature consciente, eût été un symptôme de folie, mais qui, chez elle, en était un de perversité d'imagination, car telle qu'il la connaissait maintenant, il ne pouvait douter qu'elle ne crût ce qu'elle disait. Pour qu'il y ait un Courteheuse, il faut un la Vaupallière, créant ainsi une complicité qu'elle inventait, bien plus pour se donner le droit de le mépriser et de le détester, que pour s'innocenter elle-même, car de cela, elle n'avait certainement nul souci. Pour échapper à ce supplice et pour s'étourdir, il avait resserré sa liaison avec Rosa Mialou, passant près d'elle tout le temps qu'il pouvait prendre à son étude, dînant à chaque instant chez elle, et ne rentrant chez lui que tard dans la nuit, quand, dans sa maison silencieuse, il était assuré de ne pas trouver sa femme levée. Au moins, il la voyait aussi peu que possible, mais ne pas la rencontrer n'était pas la supprimer. À deux pas, sous le même toit, elle était là, et avec un peu d'attention, il pouvait entendre respirer ce monstre à qui il avait donné son nom et auquel il s'était lié de telle sorte qu'il ne savait comment briser la chaîne qui les rivait l'un à l'autre. Cauchemar effroyable qui, la nuit, l'étranglait en lui faisant pousser des cris dont, le matin, elle s'amusait à lui parler avec un sourire diabolique. « Tu sais qu'on a encore crié cette nuit dans la maison. Tu devrais t'inquiéter de ces cris. Est-ce que ce n'est pas de cette façon que les criminels qui ont des remords se trahissent ?» Le temps, au lieu d'améliorer cet état aigu, l'avait au contraire aggravé chaque jour, et quand les vomissements s'étaient répétés, porté à son dernier degré d'intensité. C'est qu'en effet, la répétition de ces vomissements caractérisait pour la Vaupallière la situation. Ce n'était plus de craintes vagues qu'il s'agissait et que le raisonnement pouvait formuler tout bas, mais d'un fait matériel, certain, indiscutable, qui surgissait si brutalement qu'il fallait bien le regarder en face. À la vérité, il n'avait pas été seul à éprouver ces vomissements qu'elle avait elle-même accusés et qui s'étaient produits aussi chez la femme de chambre. Mais cela n'était pas pour le rassurer. D'un esprit diabolique comme celui d'Hortense, on devait admettre les inventions les plus compliquées, et le souvenir de l'essai du sulfonal qu'elle avait voulu faire sur Fauchon était là pour servir de guide aux suppositions. Pourquoi maintenant ne voudrait-elle pas essayer son poison sur sa femme de chambre? Pourquoi, en vue d'écarter les soupçons, n'aurait-elle pas eu l'idée de s'administrer elle-même une faible dose de ce poison qui lui donnerait un simple malaise et ferait croire à un accident dont trois personnes, elle comprise, se trouveraient victimes dans la maison? Si, pour tout le monde, cet accident était admissible et vraisemblable, pour lui qui connaissait le passé, il ne pouvait pas l'être. Il vomissait, donc il était empoisonné. pourquoi n'agirait-elle pas avec lui comme avec Courteuse? Ce premier mari la gênait dans ses amours, elle l'avait supprimé. Maintenant, c'était le second. Pourquoi le respecterait-elle, alors surtout qu'il lui était odieux? Est-ce que fatalement, le crime ne pousse pas au crime? Est-ce que les empoisonnements ne s'enchaînaient pas, alors surtout que l'impunité inspire la sécurité? Si la menace de porter ses vomissements à un chimiste pour les faire analyser les avait supprimés, cela ne voulait pas dire qu'il pouvait se rassurer, parce que cette menace lui aurait fait abandonner son plan, mais simplement parce qu'en se voyant en danger, elle changerait de méthode. L'analyse des vomissements dénoncerait l'empoisonnement et le poison, elle supprimait les vomissements et, pour arriver à ses fins, recourait à un autre procédé. La preuve pour lui que cette hypothèse était bonne se trouvait dans ce fait que ses malaises continuaient et qu'ils étaient les mêmes que ceux qu'il éprouvait depuis un certain temps déjà. Embarras d'estomac, mauvaise digestion, soif anormale, maux de tête. Pourquoi serait-il malade, lui qui ne l'avait jamais été? Donc cette maladie avait une cause qu'il faudrait être aveugle ou stupide pour ne pas voir et qui continuerait jusqu'à ce qu'elle l'eût envoyé rejoindre Courteuse au cimetière. Qu'il parvint à déjouer son nouveau procédé, elle recourait à un autre, car avec elle, c'était sur l'inépuisable qu'il fallait compter. La situation était d'une clarté brutale. Elle voulait sa liberté, et pour l'obtenir, elle ne se laisserait arrêter par rien. Dans ces conditions, il devait donc examiner s'il pouvait espérer sortir vivant de cette lutte, et au cas où il reconnaîtrait que les chances n'étaient pas de son côté, il fallait qu'il prît un parti au plus vite. On ne délibère pas, on n'attend pas qu'une bonne inspiration vous vienne du ciel ou de l'enfer quand on sent les doigts de la mort autour de son cou. Et ses doigts glacés ne le lâchaient plus maintenant, ni jour ni nuit. La nuit surtout, où le cauchemar le serrait jusqu'à l'étouffement. Un seul se présentait, logique et sûr. L'affaire libre pour l'être soi-même. Mais cela n'était possible qu'en lui rendant la dot qu'il avait reçue, et il avait beau combiner des chiffres, comparer son actif probable avec son passif certain, il se trouvait que même en vendant sa charge plus qu'elle ne valait réellement, il resterait toujours débiteur envers son ex-femme d'une grosse somme qui, tant qu'il n'aurait pas le moyen de la payer, le ferait l'esclave de cette misérable. Quand il avait acheté l'étude à la mort de Courteuse, celui-ci avait amené les bénéfices au maximum qu'un homme actif, intelligent, à qui tous les moyens sont bons pour faire des affaires, en pouvait tirer. De là le haut prix auquel elle avait été estimée. Sans doute, un étranger eût trouvé ce prix trop élevé. Mais justement, il n'était pas un étranger pour celle avec laquelle il traitait, et qu'importait quelques milliers de francs de plus ou de moins, puisqu'elle allait devenir sa femme et qu'elle était disposée à lui consentir par contrat de mariage toutes les donations qu'il pouvait désirer. Entre ses mains, ses bénéfices avaient immédiatement diminué. D'abord parce que sa manière de faire les affaires n'était pas celle de Courteuse. Et ensuite parce que qu'eût-il voulu continuer les procédés de son prédécesseur, la chambre des notaires ne le lui eût pas permis. Des engagements lui avaient été imposés à ce sujet qu'il avait dû accepter et suivre. Plus de clercs pour visiter la clientèle, plus de remises aux greffiers des mairies, interdiction de venir à jour fixe à Sotteville pour accoler les clients de Rouen, et cela s'était traduit par un déficit qu'avait encore aggravé la baisse du prix de la terre. Dans les villes, la fortune de la plupart des clients d'une étude de notaire se compose pour une bonne part de valeurs financières qui ont haussé dans de fortes proportions. Au contraire, celles des clients d'une étude de campagne se composent de propriétés qui ont diminué dans des proportions bien plus fortes encore. Qu'un paysan ait dans son armoire quelques obligations à l'eau, c'est tout. Pour le reste, il n'a que des terres qui valaient 5000 francs l'hectare il y a quelques années et n'en valent que 1500 aujourd'hui. La Vaupalière était entrée en fonction juste au moment où cette dégringolade s'accentuait le plus vivement et il en était résulté que ses bénéfices étaient tombés à 20 ou 25 000 francs quand ceux de Courteuse dépassaient 50 000 francs. Qu'en vue de son divorce et pour pouvoir rembourser sa femme, il vendit son étude, au lieu d'en tirer 250 000 francs prix de son achat, il n'en trouverait pas plus de 125 000. et comme il lui devait déjà une centaine de mille francs qu'elle avait fournis pour le remboursement de prêts hypothécaires sur des immeubles de Paris, dont on l'avait rendu responsable quand ces immeubles avaient été vendus à des prix inférieurs aux sommes prêtées, il se trouverait absolument incapable de se libérer envers sa femme et même de lui offrir des garanties acceptables le jour de leur divorce. Un seul moyen se présentait à son esprit aux abois pour se procurer les ressources qui lui manquaient, épouser Rosa Mialou. Sans doute, le pas était large à franchir pour ses scrupules bourgeois et ses habitudes notariales. Mais ne valait-il pas mieux, en fin de compte, devenir le mari d'une comédienne, si peu comédienne qu'elle eût été, que de rester celui d'une empoisonneuse? Bien que la question se posât nettement en ces termes, ses hésitations avaient été longues et cruelles avant qu'il se décidât à y répondre, mais l'horreur de sa situation l'avait à la fin emporté sur ses préjugés. C'était pour décider Rosa Mialou au mariage qu'il avait arrangé avec elle un voyage à Dieppe. Et c'était pour la rejoindre à la gare où il s'était donné rendez-vous qu'il passait en se hâtant devant la pharmacie de Turlure.